On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation.
Autrement dit, il y a un homme sur 12 qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est... comment armer les 11 autres ?
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound?
C'est, on vient d'entendre la voix française de Nicolas Cage, c'est l'introduction du film d'Andrew Niccol, film de 2005 qui s'appelle Lord of Wars. Et si on vous passe ça, c'est qu'on va parler vente d'armes. Salut Eric.
Salut. Oui, on va parler vente d'armes, et parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Chaque année, dans le monde, 500 000 morts par arme à feu, 15 fois plus de blessés. Des millions de morts du fait des conséquences indirectes de conflits armés, des victimes de ces mêmes conflits armés qui sont à 80% des civils, 875 millions d'armes à feu en libre circulation dans le monde, dont 640 millions d'armes légères et de petit calibre, et une production de cartouches militaires de 14 millions d'unités par an, ça turbine. On estime que, en 2016, 40 à 60% du commerce des armes légères dans le monde est totalement illégal. Les marchands de canons se frottent évidemment les mains, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a les États aussi, et dont la France. La France qui vient de s'installer à la deuxième place mondiale des pays vendeurs d'armes, juste derrière les États-Unis.
Ils ont fait un bond cette année.
Ils ont fait un bond, ils sont passés devant la Russie. Fin janvier d'ailleurs, à l'occasion des ventes des vœux aux armées, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, n'a pas boudé son plaisir. En 2015, nous avons réalisé le chiffre historique de 17 milliards d'euros d'exportation. Pour 2016, le bilan n'est pas encore consolidé, mais nous avons atteint un nouveau sommet avec plus de 20 milliards d'euros de prise de commande. En fait, comme tu dis, en l'espace de 5 ans, l'Hexagone est redevenu un des poids lourds mondiaux de l'exportation d'armes en triplant ses prises de commande. Du coup, les carnets débordent. 24 avions de combat commandés par le Qatar, 24 autres équipés de missiles attendus par l'Égypte, 12 sous-marins pour l'Australie, les usines de la dizaine des groupes industriels EADS, Thales, Safran et les 4000 PME dont 510 stratégiques tournent à plein régime. Et selon le ministère de la Défense, 40 000 postes vont être créés dans le secteur de l'armement d'ici à l'année prochaine. On vit un véritable conte de fées, un rêve, non ? On est avec Tony Fortin, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est vrai qu'on est face au niveau mondial, d'une part, à une explosion des ventes d'armes. Il faut savoir que Obama a vendu plus d'armes en 4 ans que Bush en 8 ans, et que c'est l'administration Obama qui a vendu le plus d'armes depuis la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, ces ventes d'armes explosent aussi par rapport à la France, puisque la France, comme vous le dites, passé de la quatrième place à la deuxième place derrière les États-Unis. Donc on est face... Alors qu'est-ce qui explique cette situation ? D'une part...
Juste, je voulais dire que vous étiez chercheur à l'Observatoire des armements à Lyon et que ça fait un petit moment que vous vous intéressez à ces histoires de vente d'armes et notamment de supermarchés. En fait, c'est un marché quoi, qui est visiblement très porteur pour la France, hein, qui n'en finit plus de se féliciter de ses prouesses, alors, je ne sais pas si on peut dire meurtrière, mais en tout cas de ses prouesses technologiques. Et puis de son côté, la France est quand même devenue un des VRP. Quoi, dans ce commerce d'armes, et même si on a quand même l'impression que du coup elle participe quand même un peu à ces histoires de prolifération d'armes à travers le monde.
De toute façon, dès que vous décidez d'exporter, vous proliférez. À partir du moment où vous avez des entreprises qui sont sur ce secteur-là et qui produisent à la fois pour nos forces armées, mais qui doivent exporter du matériel militaire parce que sinon elles ne peuvent pas fonctionner, hein, seraient déficitaires. Il ne pourrait pas y avoir, effectivement, et puis d'autre part, par rapport au coût aussi d'équipement de nos forces armées. Du coup, cette industrie de l'armement doit exporter du matériel militaire et doit l'exporter à des régimes qui violent les droits de l'homme, à des pays en guerre, comme l'Arabie Saoudite, notamment. Et évidemment, vous retrouvez dans une situation où, d'une part, on fait prévaloir des enjeux économiques sur toutes les questions de droits humains. Mmh, donc, tant qu'effectivement cette industrie existera, tant qu'elle continuera à produire des armes, on se retrouvera aujourd'hui, comme aujourd'hui, avec des conflits comme le Yémen, qui sont alimentés en armes françaises. C'est logique. Ces armes sont vendues. On pense que c'est juste... effectivement, un moyen d'influencer un certain régime. Oui, c'est sûr, la politique étrangère de la France passe aussi par les ventes d'armes, passe par du soutien au régime. Si l'Arabie saoudite a besoin d'armes françaises, c'est parce qu'elle recherche le soutien de la France dans sa stratégie géopolitique au Moyen-Orient et dans la guerre qu'elle engage au Yémen. Mais effectivement... tout ça a un coût humain aujourd'hui absolument désastreux et provoque aussi en conséquence les crises que l'on connaît, crise migratoire notamment, hein, l'aggravation du conflit en Syrie, au Yémen, ça entraîne effectivement un flux de réfugiés vers l'Europe, une déstabilisation politique de l'Europe. Donc tant qu'on n'aura pas une discussion, un débat aujourd'hui en France sur... les bénéfices réels hein, de l'industrie de l'armement et pas uniquement en termes économiques parce qu'aujourd'hui il n'y a que le discours économique qui prévaut, ben on ne pourra pas vraiment connaître le coût humain, on ne pourra pas évaluer le coût humain réel mais aussi économique de l'industrie de l'armement en termes social.
Du coup, vous êtes allié à deux autres ONG, Amnesty et également Survie, et donc vous avez jeté un petit pavé quand même dans la mare, parce qu'au moment où Le Drian montrait ses muscles, du coup, vous avez dit quand même il y a un petit souci, parce que par rapport à ces ventes d'armes, visiblement, ce que vous dites, c'est que d'après les informations dont vous disposez, Paris n'a pas respecté 11 des 24 embargos dictés par l'ONU et l'Union européenne, ce qui fait qu'en fait, on vend, y compris à des gens qui vont massacrer des populations derrière. Quoi. Grosso modo, c'est ça.
Oui, alors, il y avait cette loi qui est en attente depuis 10 ans, parce qu'il y avait des réticences politiques, évidemment, à la voter et à l'appliquer, puisqu'elle permet de poursuivre pénalement des individus, des sociétés, qui vendent des armes ou fournissent des services militaires à des pays sous embargo, qui sont pour la plupart des pays en guerre. Et évidemment, derrière ça, vous avez toute la diplomatie parallèle que la France met en œuvre vis-à-vis de certains régimes, comme par exemple la Côte d'Ivoire, et qui lui permet d'avoir les coups des franges sur le plan effectivement du soutien à des régimes qui sont unis par la communauté internationale. Alors ça peut effectivement aller à de la formation militaire, à de la fourniture d'armes. Et effectivement, la France ne veut pas voir cet instrument renié, contraint par des outils internationaux ou interdit hein, purement et simplement. Parce que là, il s'agit bien d'une poursuite pénale. Et donc en fait, le résultat de cette loi, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, et de sociétés qui seraient menacées de poursuites judiciaires si cette loi était appliquée. Donc, évidemment, la France le refusait. Donc, elle a tout fait au moment pour pas que cette loi soit votée. On a fait pression avec Survie, Amnesty International, pour que cette loi soit votée par l'Assemblée nationale. Finalement, après son passage au Sénat en 2007, elle est passée en première lecture à l'Assemblée nationale fin janvier. Suite à notre lobbying, mais évidemment le gouvernement a fait pression pour réduire le périmètre de cette loi au maximum. Et nous, on a tout fait pour étendre son cadre, faire en sorte que la justice française soit justement compétente vis-à-vis des sociétés et des trafiquants d'armes qui sont basés à l'étranger, hein, que ceux-ci aussi puissent faire l'objet de poursuites judiciaires. Et on a eu gain de cause de la part des députés. Mais ça n'a pas plu au gouvernement qui a décidé ensuite de bloquer de nouveau la loi en utilisant la procédure, de bloquer son passage au Sénat. Voilà, donc
Oui, juste une petite précision, cette loi, c'est en fait c'est un projet de loi, le projet de loi numéro 349, qui est sur la répression pénale des embargos et autres mesures restrictives. Effectivement, elle a été évoquée pour la première fois en 2001. En fait, elle vise à doter la France donc d'un solide arsenal législatif pour qu'elle puisse réprimer pénalement les violations aux embargos sur les armes. Elle a été, comme vous disiez, déposée au Sénat le 21 février 2006. Ce texte accroupit pendant 10 ans, avant que l'Assemblée nationale ne l'examine enfin en première lecture, c'était le 28 janvier 2016. Donc là, je pense que vous aviez fait un boulot derrière pour enrichir avec de nombreux amendements qui pouvaient poser un petit problème à ces vendeurs d'armes, en tout cas à tous ces gens qui participent à la prolifération, c'est-à-dire à la confiscation des marchandises, également saisie des avoirs, des peines applicables aux personnes morales, hein, les entreprises, ainsi, telles que la dissolution ou l'interdiction d'exercer une activité, donc ça allait assez loin, l'exclusion des marchés publics et des aides publiques, peines renforcées en cas de commission des actes en bande organisée, et c'est tous ces amendements qui ont été farouchement donc combattus par le gouvernement de François Hollande, et voilà, et en fait ce texte aujourd'hui, où est-ce qu'il en est, puisque des élections se profilent, on a peu de chances de le voir aboutir d'ici peu, quoi.
Et que la session parlementaire est terminée aussi. Ouais,
en plus, oui. Donc ça repousse au calendrier grec. Hein.
Tout à fait. Une fois encore, c'est repoussé au calendrier grec. Il n'y a aucune volonté politique, évidemment, de l'appliquer, parce que c'est une loi gênante. Et dans la mesure où il y avait un amendement qui mettait en place une forme de système de contrôle parlementaire du respect des embargos par la France. En gros, les députés auraient leur mot à dire sur le respect des embargos par la France, pourraient évaluer si la France respecte bien ses engagements internationaux, si elle ne soutient pas des entreprises qui seraient liées avec des pays en guerre, par exemple, et de pouvoir en débattre avec un certain nombre de parlementaires qui travaillent sur ces questions internationales. Et évidemment, cette perspective-là effraie nos gouvernements, qui ne souhaitent pas voir un débat paraître sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'ils souhaitent que ce pouvoir-là, le pouvoir de vendre des armes, le pouvoir de soutenir ces types de régimes, ce soit quelque chose qui relève exclusivement, qui continuera à le relever exclusivement du président de la République et du gouvernement. Dès lors qu'un débat ouvre sur le plan des droits humains au niveau de l'Assemblée nationale, ils pensent que c'est perdu, que la situation risque de leur échapper et que des situations telles que l'on connaît à la fois en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays où effectivement la France aurait utilisé des trafiquants d'armes pour livrer des armes, ben, si cette situation apparaît, si cette situation est soulevée par un certain nombre de députés, ben, que ça puisse restreindre la politique étrangère de la France.
En fait, je ne sais pas si ça les effraie ou s'ils ont peur justement d'être brisés dans leur élan, parce que vu que cette loi, enfin, c'est toujours un projet pour le moment, du coup pendant ce temps, le business continue, hein, donc entre 2010 et 2014, plus de 500 millions d'euros d'armement ont été livrés à la Chine. On s'aperçoit aussi qu'il y a du matériel militaire qui a été balancé aux combattants kurdes d'Irak, normalement, c'est une transaction qui était en principe interdite par l'embargo sur ce pays, décidé en 2004 quand même, par une résolution des Nations Unies. On s'aperçoit également qu'il y a des livraisons de blindés légers Renault à l'Égypte en 2013 et 2014, soit juste au moment où l'armée prend le pouvoir et se lance quand même dans une répression sanglante de la population. C'est toujours le business qui prime sur les droits humains, et en fait on a l'impression que dès qu'on les interpelle sur ces histoires de violations d'embargo, en fait soit ils ne répondent pas, soit qu'est-ce qu'ils mettent en évidence, le secret des femmes. Ou alors ils jouent un petit peu sur les mots en disant mais oui, mais attendez, là ce contrat a été signé avec ce pays avant qu'il ne devienne un pays à risque, donc voilà, on n'a pas pour autant suspendu la livraison d'armement. En fait, à chaque fois ils s'arrangent un petit peu, quoi.
Oui, alors c'est vrai qu'on met beaucoup en avant la question économique, si on vend pas d'armes, et ben dans quel secteur on va arriver à prospérer. Mais quand on examine les chiffres relatifs aux exportations, on s'aperçoit par exemple que l'Arabie Saoudite est le premier client de la France en termes de vente d'armes, mais en même temps les exportations d'armement, c'est uniquement 5% des exportations totales de la France vers l'Arabie Saoudite. Donc on voit que c'est qu'une partie minoritaire de notre activité économique vers l'Arabie Saoudite. Et donc l'argument économique est un petit peu fallacieux d'une certaine façon. On pourrait faire le choix politique de reconvertir à plus ou moyen terme l'industrie de l'armement vers d'autres secteurs qui seraient jugés plus utiles par la société. Oui, mais... Il y a un refus de le faire dans la mesure où c'est un secteur aussi très très stratégique. Et à partir du moment où vous vendez des armes vers l'Arabie Saoudite, eh ben vous avez des contacts au plus haut niveau avec ce régime. Vous pouvez aussi, vous avez l'outil, le produit d'appel, hein, c'est-à-dire effectivement des chasseurs hyper performants, des technologies d'imagerie de pointe qui servent effectivement à ouvrir le dialogue avec l'Arabie Saoudite, bien évidemment, enfin qui fournissent en tout cas les occasions de négocier. Mais à travers ça, vous cherchez, enfin vous apportez, comme j'ai dit, à l'Arabie Saoudite un soutien politique. Ça fournit les moyens d'une négociation. Mais en soi, les ventes d'armes, les chasseurs, etc., ça peut être effectivement produit par d'autres pays. C'est une façon pour la France de peser sur le plan international à travers le militaire, parce que derrière les ventes d'armes, vous avez aussi des formations techniques, une assistance technique sur 20-25 ans hein, également. Donc ça vous permet aussi d'établir des bases militaires, comme effectivement aux Émirats Arabes Unis, par le biais effectivement d'associations avec ces régimes-là, et aussi d'acquérir du renseignement. Donc vous voyez que derrière les ventes d'armes, il y a tout un maillage d'intérêts politico-économiques qui est complexe, mais qui n'est pas réductible à l'acte commercial en tant que tel.
Mais c'est surtout aussi que ça fait intervenir quand même des maillons plus ou moins véreux. Je prends exemple sur le rapport là d'un groupe des experts des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire, hein, qui est daté d'avril 2013, donc pas très vieux, qui disait deux entrepreneurs français, un ancien légionnaire et un ancien gendarme de la cellule antiterroriste de l'Élysée, faut voir les entrepreneurs quand même, hein, ont été les maillons directs ou indirects d'une structure complexe de sociétés ayant leur siège en Côte d'Ivoire, Tunisie et Lettonie, dont ils se sont servis pour violer à de nombreuses reprises le régime de sanctions imposé à la Côte d'Ivoire. Et plus loin, les rapporteurs disent que les Nations Unies ont également réuni des documents prouvant qu'il y aurait eu des ventes d'armes létales et de munitions correspondantes à partir d'août 2009. Parmi le matériel fourni figurent des équipements et matériels destinés à la police, munitions lacrymogènes, dispositifs de lancement pour des munitions semi-létales et munitions correspondantes. Donc on s'aperçoit que c'est le côté militaire, mais également civil aussi, enfin maintien de l'ordre. Donc du coup, ça permet aussi de dealer... Voilà, tout un savoir-faire, une expertise, un savoir-faire et également du matériel, parce que tout ça est associé en fait à chaque fois.
Oui, tout à fait. Et puis il faut savoir que ces sociétés, ces individus épinglés pour des violations d'embargo sur la Côte d'Ivoire pendant les années 2000, mais aussi au début des années 2010, étaient présentes au salon Rossatori de l'armement en 2016, qui est un salon qui se tient tous les deux ans à Villepinte, où toutes les sociétés françaises d'armement exposent leur matériel dernier cri, et ces sociétés épinglées par le groupe d'experts des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire étaient présentes à ce salon et avaient leur stand à côté de celui de l'armée de terre, ce qui veut tout dire.
Ouais. Donc on ne les inquiète absolument pas. C'est voilà, en fait, ça continue. En fait, il n'y a aucun moyen, vu que ce projet de loi. Alors, c'est étrange aussi. On se demande ce que font quand même les parlementaires, les députés, les sénateurs. Qu'est-ce qu'ils font ? Parce que tu sais qu'il y en a certains qui ont interpellé le gouvernement, qui ont quand même demandé des comptes. Alors, j'ai l'impression que quand ils demandent des comptes, ils sont dans l'opposition. Et puis, le jour où ils se retrouvent dans le camp du gouvernement, là, ils oublient toutes les questions qu'ils avaient posées avant. Ou est-ce que c'est pas aussi simple que ça ?
Oui, quand ils font partie du parti au gouvernement, ils considèrent que toutes les questions relatives à la défense, aux ventes d'armes, eh ben, relèvent de la compétence exclusive du président de la République. Ça reste dans son giron, ça ne doit pas être débattu. Et si on s'intéresse à ces questions, tout de suite, on apparaît comme un petit peu un électron libre, quelqu'un d'un peu gênant, quelqu'un d'un peu bizarre aussi. Donc, ils refusent effectivement de travailler sur ces questions, ou en tout cas, ils sont très très réticents vis-à-vis de ça. Alors que pourtant c'est dans leur mission, hein. Le contrôle de l'activité gouvernementale, ça fait partie du mission du parlementaire, et la Constitution n'interdit certainement pas aux parlementaires de s'intéresser aux questions de défense, absolument pas. Donc s'ils le font pas, c'est qu'ils n'ont pas de bénéfice à en tirer sur le plan électoral, politique ou autre. Bon, c'est pour ça que effectivement nos relais parlementaires aujourd'hui sont très très peu nombreux, et ça ne permet pas, en tout cas, que s'ouvre un réel débat sur ce sujet, débat qui semble essentiel aujourd'hui avec la multiplication des conflits que l'on perçoit dans le monde, et aussi la responsabilité liée au rôle de la France dans ce conflit, notamment au Yémen, où des armes françaises sont quand même utilisées pour commettre des crimes de guerre, des bombardements de civils, notamment. Bon, il faut quand même aujourd'hui le dire, hein, bon, qu'on a fourni des canons César, des chars Leclerc, des Mirage 2000, qui servent aujourd'hui à atteindre les populations civiles. Voilà, avec quand même des crimes de guerre de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, qui sont dénoncés par les plus grosses ONG internationales sur le terrain et par les organisations humanitaires, que ce soit Action contre la faim, que ce soit Human Rights Watch ou Amnesty International France. Avec un pays qui est sous perfusion humanitaire, le fait qu'il y ait un blackout total sur ce sujet en France interpelle beaucoup. Dans un pays normal, les gens devraient être dans la rue.
Mais on manque...
Il y a des débats sur le sujet au Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne, au Canada, il n'y a absolument rien en France.
Mais c'est sûr qu'en France, on manque cruellement de mouvements antimilitaristes ou anti-guerre. Du coup, il y a quand même un petit fanzine qui était paru à l'automne dernier qui s'appelle « Canon rompu ». Qu'on peut trouver sur le site canonrompu.wordpress.com, mais c'est vrai que ça manque de mouvements qui pourraient soutenir ce genre d'initiative, qui pourraient établir un vrai rapport de force, en fait, parce que quand vous disiez que y a rien à gagner électoralement pour les législateurs derrière, c'est qu'effectivement il n'y a pas de rapport de force pour imposer ça, quoi. C'est un sujet qui est pas du tout populaire. Moi j'avais une question aussi Eric, tu parlais tout à l'heure de la question du maintien de l'ordre, qu'on vend des armes, c'est pas uniquement militaire, c'est aussi des techniques civiles et de police. Quelles retombées ont ces ventes d'armes à l'étranger, en France aussi, sur le maintien de l'ordre en France? On voit que la police s'arme de plus en plus, se militarise de plus en plus ces dernières années. Quel rapport il y a entre ces deux faits-là?
Alors, j'ai pas travaillé sur le matériel de police. Spécifiquement, ce qu'on peut dire, parce que ça nécessite vraiment une étude, hein, sur effectivement le matériel de police à la fois qu'on produit, la façon dont il pourrait être contrôlé par différentes instances comme des parlementaires, mais aussi ce matériel de police et de surveillance plus généralement, téléphonique, de maintien de l'ordre, comment est-il vendu à l'étranger?
Comment il est utilisé en France aussi,
Il est aussi utilisé en France, bien sûr.
Parce qu'il y a un aller-retour entre les deux.
C'est une question générale, oui, tout à fait, un aller-retour, mais ça nécessite une étude complète pour en savoir un petit peu plus. Étude qu'on n'a pas faite, donc je peux pas vous en parler. Ouais. Comme il n'y a pas de toute façon une transparence minimale par rapport aux ventes d'armes, hein, du rapport au Parlement, on y reviendra sans doute tout à l'heure, au sujet du matériel de police, il n'y a aucun rapport aujourd'hui sur l'équipement des forces de police françaises aussi, hein, qui pourrait aussi faire l'objet d'un intérêt de la part du citoyen et des parlementaires, et puis aussi leur exportation, puisqu'il y a bien du exportation du matériel de police à l'étranger. On a eu pendant le printemps arabe des journaux qui faisaient état d'exportations de grenades lacrymogènes au Bahreïn pendant les manifestations d'opposants. Voilà, il serait utile qu'il y ait enfin une transparence sur le sujet, sur toute la filière de production, et puis sur les exportations de matériel de police. Ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Hein.
On avait le fameux mot de Michel Alliot-Marty, alors ministre de la Défense, il me semble, envers le gouvernement tunisien de Ben Ali, avant qu'il tombe.
Je crois qu'elle était passée à l'intérieur, ce qui est important de souligner, parce qu'à l'époque, elle n'était déjà plus à la Défense.
Oui, parce qu'elle proposait des conseils en maintien de l'ordre, justement.
Voilà, au régime de Ben Ali. Elle avait sauté à cette occasion-là, mais enfin, finalement, elle n'avait fait que... je crois que ce qui lui était arrivé, c'était plutôt qu'elle avait dit tout haut ce qu'il fallait taire, parce que finalement, ces pratiques-là, elles avaient lieu déjà. On pourrait revenir un petit moment quand même sur François Hollande, parce qu'évidemment, ses succès, on a parlé de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, certes, mais François Hollande a été extrêmement actif sur le terrain des ventes d'armes. Ce succès, entre gros guillemets, c'est aussi son succès. Il y a un chiffre là qu'on entend ces jours-ci et qu'on est obligé de mettre en rapport avec cette explosion des ventes d'armes, à l'exportation des ventes d'armes françaises, c'est le nombre de voyages à l'étranger de François Hollande. Il est le président de la République qui aura le plus voyagé. On est à plus de 230 voyages. Il est en train de réaliser ses derniers voyages officiels actuellement. Il était en Malaisie là. Il était en Malaisie parce qu'il essaye de leur refourguer des rafales. Il a été d'une activité, tu démarrais avec Obama tout à l'heure, mais Hollande a été d'une activité incroyable. Il a vraiment entériné ce rôle de VRP, de super VRP qu'est le président de la République aujourd'hui pour les ventes d'armes.
Alors qu'il me semble que de Serge Dassault est mis en examen, non, aussi par rapport à justement... aujourd'hui, on se gargarise avec le Rafale, avec tout ce genre de choses, mais je crois que c'est quand même assez étrange qu'on ait un type qui soit plus ou moins sur la sellette judiciairement parlant, et qui continue, dont on continue comme ça à promouvoir, surtout à l'international, toutes ces breloques, ces avions de combat, non, me semble-t-il.
Oui, mais les mises en examen pour achat de vote, ça n'a rien à voir, enfin.
Non, je crois également qu'il y a une histoire de financement là qui n'est pas claire. Non, Tony, ça te dit quelque chose ?
Oui, tout à fait. Il a été mis en examen par rapport, il me semble, à des histoires de financement illégal, de délits d'initiés, il me semble, par rapport à des clients, enfin des électeurs. J'ai plus les détails en fait de l'affaire en tête, mais effectivement, il a fait l'objet d'une condamnation à ce sujet. Donc, on pourrait imaginer que dans une démocratie normale, il ne puisse plus être un interlocuteur valable aux yeux de l'opinion publique.
Ce qui n'est pas le cas.
Pourtant, c'est ce qui n'est pas le cas. Alors, par rapport à François Hollande, effectivement, on se retrouve, et dans le cadre aussi de Jean-Yves Le Drian, actuel ministre de la Défense, face à une position aujourd'hui qui est extrêmement cynique, qui est de privilégier effectivement les bénéfices économiques des exportations d'armes à un petit peu n'importe quel prix. Sans effectivement avoir en tête une vision aussi de long terme. Est-ce que c'est dans notre bénéfice à plus long terme de maintenir évidemment des liens avec des régimes, par exemple, même sur la question basique du terrorisme, entretiennent un rapport ambigu vis-à-vis du terrorisme international. Et puis, plus au-delà, la question des droits humains, puisque si on offre un soutien géostratégique à travers les ventes d'armes à ces pays-là, ça veut dire qu'on anéantit toute possibilité de transformation politique de ces régimes-là à plus ou moyen terme. Voilà. Et on maintient aussi l'arbitraire sur le plan de leur politique à l'international, c'est-à-dire une politique dans le cas de l'Arabie Saoudite qui est évidemment extrêmement contestée, à savoir le soutien tant à des mouvements islamistes de par le monde, mais surtout effectivement cette guerre au Yémen conduite par des bombardements de populations civiles et un pays qui est en voie de destruction avancée. Donc c'est ça le plus contestable et le plus révoltant dans la politique actuelle française, c'est qu'elle apporte son soutien à des dictatures, à des régimes honnis par la communauté internationale. Ça n'a rien de nouveau, ça c'était bien avant Hollande, mais c'est vrai qu'on constate depuis quelques années, depuis peut-être 2012, enfin depuis 2013, depuis le début de la Hollande, un aspect encore plus prononcé dans ce raidissement, dans, dans ce cynisme économique, autant les précédents gouvernements, à partir de 1995-97, je ne sais plus exactement, il y a toujours eu une tradition de concertation entre les gouvernements et les ONG qui montrait qu'en fait, la question des conséquences humaines des ventes d'armes était quelque chose qui était pris, en tout cas en compte, comment dire, était matière à débat entre les ONG et le gouvernement, du fait aussi qu'il existait un minimum de mobilisation sociale, un minimum de mobilisation aussi des grandes ONG. Autant aujourd'hui, on s'aperçoit, comme vous l'avez dit d'ailleurs, ce rapport de force n'existe plus. Cette question des conséquences humaines des ventes d'armes n'est plus du tout dans l'agenda politique, ce qui laisse le champ libre, évidemment, à nos gouvernements pour entretenir toutes sortes de relations décomplexées avec ces régimes-là.
Chaque année, au Parlement, un rapport est remis et il est censé détailler les transferts d'armement de la France. Justement, c'est-à-dire que pour dire, regardez un petit peu, on vend des armes, on les vend en toute transparence. Sauf que visiblement, en l'espace de 15 ans, ce rapport s'est réduit comme une peau de chagrin. Et aujourd'hui, c'est quasiment devenu une plaquette de pub pour l'armement cocorico français. Du coup, comment on explique que depuis les années 2000, ou justement, juste avant les années 2000, on avait une certaine idée de ce qu'on vendait, à qui on le vendait, peut-être qu'on avait même le détail des livraisons ou les caractéristiques techniques du matériel, des destinataires. Aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça. Comment on l'explique, hein? Parce que c'est...
On l'explique par le recul du débat public sur ces questions qui, c'est vrai, au sortir des années 90, il y a eu quand même l'Angola avec les massacres, le Rwanda, on a eu aussi le Kosovo, un certain nombre de conflits qui ont entraîné une prise de conscience de la part de l'opinion publique et des grandes ONG pour se mobiliser un petit peu sur ce sujet, chose qui aujourd'hui est... un petit peu disparu. Mmh. Du coup, effectivement, la transparence s'est réduite, parce qu'il n'y a pas ce rapport de force-là. Et comme je dis, plus vous mettez des informations, c'est pas tant sur le caractère commercial, a priori, les industriels communiquent sur les matériels qu'ils vendent à tel ou tel pays. En fait. Mmh. Voilà, donc c'est pas une question de transmettre des informations à tel pays, voilà, respect du secret défense. Non, la véritable raison, c'est qu'ils souhaitent pas que s'ouvre un débat public sur ces questions-là. Si on s'aperçoit, comme on le voit dans le rapport au Parlement, qu'on transfère des armes, par exemple à la Libye, et que la Libye est sous embargo, si un débat qui s'ouvre, le gouvernement est tenu de donner des informations sur le type de matériel qu'il a fourni à ce régime-là sous embargo. À qui il l'a fourni? Est-ce que c'est au gouvernement libyen ou à tel ministre? À quel soutien, voilà, et qui est situé dans une région du Mali? Ça, il faut qu'elle donne des détails là-dessus. Et évidemment, elle ne le souhaite pas.
Mais c'est voilà. Que... Oui, pardon.
Donc, le but, c'est de réduire le champ de manœuvre des ONG, de tous ceux qui s'intéressent de façon critique aux questions de défense, pour pas qu'ils aient effectivement d'outils sur lesquels appuyer et faire progresser leur position. Et cette stratégie, effectivement, de transformer le rapport au Parlement en simple brochure publicitaire qui se gardarise des bénéfices économiques des exportations va dans ce sens-là. Et bien sûr aussi de c'est aussi une façon de faire accepter ce commerce-là auprès des populations civiles, auprès de l'opinion publique, en leur disant effectivement c'est un commerce comme un autre. Et malheureusement, cette vision-là, aujourd'hui, est acceptée et le commerce des armes devient peu à peu un marché comme un autre. On peut revenir aussi là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça veut dire que cette façon de le présenter comme un commerce dans les autres, elle a une conséquence. Ça passe par des lois, ça passe par une façon de concevoir le matériel militaire. Par des lois, par des règlements. Je cite par exemple les directives de l'Union européenne de 2009 qui libéralisent le commerce des armes au niveau de l'Union européenne, qui permettent aux industriels de commercer librement entre eux s'ils font partie de l'Union européenne. Avant, chaque industriel était tenu de demander une autorisation pour livrer des armes à un autre pays. Et aujourd'hui, c'est marché libre. Et d'autre part, il y a des industriels français qui font pression sur la Commission européenne pour que les barrières tombent entre l'Union européenne et le reste du monde, et d'une certaine façon, qu'on puisse vendre des armes aussi facilement que des bananes et du chocolat. D'autre part, vous aviez quand même, pendant des années et des années, des grands programmes militaires, avec des licences propriétaires, on vend un char Leclerc et on vend toute la maintenance technique derrière et tous les composants qui vont avec. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, vous vendez une radio, vous mettez des connecteurs universels qui permettent, d'une certaine façon, de la pluguer, de l'associer avec un matériel qui pourrait être produit en Suède, aux États-Unis, en Chine. D'une certaine façon, c'est la fin du matériel militaire. Vu comme une licence, vu comme une propriété exclusive de l'État, parce que c'est quelque chose qui est considéré comme un bien militaire et pas qu'un bien comme les autres, c'est-à-dire qu'il peut avoir des conséquences extrêmement graves avec tout ce que ça suggère derrière. Non, le fait qu'il y ait aujourd'hui une connectique universelle sur des missiles MBDA, par exemple, montre que le matériel devient un bien d'usage, un bien de consommation comme nul autre, du fait de la mondialisation des échanges et à la fois de la production de biens militaires, mais aussi d'achat et d'usage. Voilà, puisque la Chine aujourd'hui est un producteur majeur de biens militaires, qu'elle produit notamment sous licence du matériel français, des Crotales, des hélicoptères Gazelle, du matériel de seconde main qu'elle revend à des pays d'Afrique sous embargo, comme le RDC, le Soudan. D'une certaine façon, la Chine tient le rôle de passerelle de la France vers les pays d'Afrique noire, avec lesquels la France souhaite pas développer de liens commerciaux parce que c'est trop sensible politiquement.
Alors, on parle de recul du débat public, et tu dis l'armement est en train de devenir un marché comme un autre. Il y a quand même un moment, durant ces 5 ans, où ce débat public aurait pu être relancé par Hollande lui-même, et où en tout cas il a pris une décision qui montrait bien que là, le marché de l'armement n'est pas un marché comme un autre, et qu'il y a bien des questions politiques, de politique internationale derrière. C'est quand il a mis en scène son refus de vendre, alors je crois que c'était un porte-hélicoptère, je ne sais plus exactement, mais quand il a refusé de vendre des armes, qu'il a interrompu des contrats déjà signés avec la Russie, suite à l'invasion de la Crimée notamment. Et ça avait été mis en scène, ça a fait la une des journaux.
Tout à fait.
Et là, il disait, bon, effectivement, on ne peut pas vendre à n'importe qui, quoi.
Oui. Ça devient un marché comme un autre qu'à partir du moment où on l'a voulu, soyons clairs. Le seul problème, c'est que si vous décidez de libéraliser le commerce des armes, y a un effet cliquet, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est-à-dire que plus vous exportez des biens stratégiques, c'est la dynamique des exportations, plus après vous augmentez les risques, évidemment, ce matériel soit copié, soit reproduit, soit retransféré à d'autres régimes, que cette technologie circule d'autant plus et aboutisse au fait que vous n'en êtes plus vraiment propriétaire, soit parce qu'elle est copiée par des industriels chinois, soit parce qu'elle fait l'objet de détournements ou autres. Et c'est ce qui aujourd'hui est en train de se produire. Le Pakistan développe un marché d'occasion du matériel militaire où des vieux hélicoptères Gazelle sont plugués avec des composants dernier cri, qui peuvent être achetés après que par des pays qui souhaitent développer... obtenir des technologies de pointe alors qu'elles ne peuvent pas s'offrir, par exemple, des Rafales ou des technologies de dernier cri achetées par la France, donc vont acheter effectivement sur ces salons militaires effectivement des vieux hélicoptères qui sont équipés de technologies de dernier cri qui permettent, à partir de matériel ancien, de bénéficier de quelque chose d'extraordinairement performant.
Moi, j'en reviens juste à ces histoires de rapport au Parlement, puisque c'est le seul moyen pour des Pékin comme nous de savoir qu'est-ce qui est vendu à quel pays, etc. Donc aujourd'hui, on le voit, c'est plutôt des plaquettes de pub. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on pouvait avoir confiance dans une bande de zig de ce ministère qui fait la promotion des armes et en même temps qui dit, on va faire le contrôle des armes. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est les mêmes qui vendent, à qui on demande de vendre en toute transparence, quoi. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, ça coince. Donc comment on sort de ça ?
Il y a une réelle schizophrénie. Effectivement, à partir du moment où on a une concentration des pouvoirs entre les mains de l'exécutif en matière de militaire et en matière de vente d'armes, vous retrouvez forcément avec des organismes des organes qui sont chargés à la fois de la promotion des exportations d'armes et de leur contrôle. C'est le cas du ministère de la Défense. Et évidemment, cette position est totalement intenable et on ne peut certainement pas croire. Et c'est pour ça qu'on s'en aboutit à effectivement des déclarations du gouvernement disant qu'il respecte absolument les règles internationales. Et puis qu'on voit effectivement aujourd'hui énormément d'exportations d'armes vers des régimes en guerre comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou alors soumis à de fortes tensions internes et la répression des opposants politiques comme en Égypte. Voilà, on se retrouve face à des situations totalement paradoxales. Alors oui, nous, ce qu'on demande à l'Observatoire des armements, le seul moyen de sortir de cette situation, c'est de créer un débat public, de faire en sorte qu'un tiers s'intéresse à cette question-là et puisse, d'une part, soulever des questions gênantes, en discuter avec d'autres parlementaires, et puis après que ça puisse passer par des interpellations du gouvernement, le dépôt de propositions de loi, la prise de conscience derrière ça de l'opinion publique, parce que ça suppose qu'il y aura une médiatisation. Si les parlementaires commencent à en parler, ils vont médiatiser un certain nombre d'affaires, un certain nombre de questions liées aux ventes d'armes. Et puis surtout, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une commission parlementaire qui se crée et qui examine un certain nombre de contrats d'armement. On pourrait imaginer ceux spécifiquement vers les destinations sensibles, et puisse avoir accès à une levée du secret défense, accès au secret défense, obtenir un certain nombre d'informations et en faire un rapport. Voilà, que vraiment le débat s'ouvre sur cette question-là, dans le but d'améliorer les choses petit à petit. Il ne s'agit pas d'une fatalité, on n'est pas condamné ad vitam aeternam à vendre des armes. Il est évident que la France se repose sur une vision de l'influence géopolitique qui est datée du 19e, 20e siècle. Cette idée qu'on doit passer par la puissance militaire et le soutien au régime en place pour rayonner sur la scène internationale. Ce qui garantit finalement notre place dans le monde. Cette situation n'est pas du tout une fatalité. L'Allemagne a eu un passé extrêmement militariste. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a totalement réorienté ça. Alors évidemment, ça pose d'autres problèmes. Le fait que ce soit une superpuissance économique, notamment au niveau de l'Union européenne et de son rapport vis-à-vis de la Grèce. Mais il n'en reste pas moins que ça montre que des changements sont possibles, qu'on peut effectivement, d'une certaine façon, rayonner au niveau international sans passer par effectivement la vente de matériel qui servent à réprimer des opposants politiques. Donc il y a d'autres façons effectivement de nouer des relations, il y a d'autres façons de rayonner sur l'espace international. On pourrait imaginer une promotion active des droits de l'homme notamment, et un soutien à un certain nombre d'opposants politiques, une politique étrangère beaucoup plus ouverte vis-à-vis du monde et qui s'investit dans la prévention des crises, la négociation en fonction des différentes parties en présence. Je suis pas certain que l'image de la France en pâtirait. En tout cas, à plus ou moyen terme. Donc voilà, je pense que ce débat politique-là, on doit l'avoir. Je ne suis pas certain que nous-mêmes, même en étant autistes vis-à-vis du monde comme on l'est actuellement, on en tire bénéfice plus tard. Je ne suis pas certain que, on tire bénéfice de la crise en Syrie, de la crise au Yémen, et qu'on doit se reposer sur l'idée que, le monde, c'est juste des États qui agissent en fonction de leur intérêt égoïste, et on doit se résoudre à ça. Non, parce que l'Afghanistan, le Mali, la Centrafrique, c'est des conflits, où l'Irak, la Syrie, c'est des conflits qui continuent à prospérer, à se développer. Dans ces situations de chaos, qu'est-ce qui en émerge au bout du compte sur un horizon de 10 ou 15 ans ?
De beaux carnets de commandes.
Ou de gros carnets, évidemment, de commandes pour les industriels, mais aussi sur le plan social, un terrorisme qui peut se retourner contre nous, même si les liens ne sont pas forcément automatiques.
Tout à fait, c'est le retour du boomerang.
Ça mérite d'être posé aussi dans le débat public comme ça, quoi.
Mais ça se retourne
pas de conséquences à plus long terme des ventes d'armes.
Ça se retourne déjà contre nous via aussi toutes les politiques qui suivent ce terrorisme-là, les politiques de surveillance, d'état d'urgence, de maintien de l'ordre impressionnante.
De militarisation du maintien de l'ordre, comme tu disais tout à l'heure. Tony Fortin, en tout cas, super. Hein, merci beaucoup d'être intervenu sur les ondes de Canal Sud dans ce magazine aujourd'hui. On rappelle que vous êtes chercheur à l'Observatoire des armements. On rappelle donc que vous faites partie de l'Observatoire des armements. Donc, je donne l'adresse mail, hein, c'est www.obsarm.org. Du coup, en allant sur votre site, eh bien, on peut voir que vous faites une publication qui est super intéressante, qui s'appelle Damo Class, hein, qui est un petit journal, et qu'également vous proposez, voilà, pour continuer, pour les gens en tout cas qui sont intéressés par cette question, pour aller un petit peu plus loin, je pense à des bouquins qu'on trouve sur votre site, comme l'enquête sur les transferts d'armes dans le Sahel, voilà, également tout un petit livret sur, pour une répression pénale de la violation des embargos sur les armes, voilà, ça vaut le coup d'aller se balader sur votre site obsarm.org. Merci Tony.
Ben merci Eric, et j'ai oublié ton prénom.
C'est Julien.
Julien et Ben.
Julien, excuse-moi. Ben écoutez, merci de cette invitation et puis au plaisir de se retrouver à Lyon ou à Toulouse.
Ouais. Ou à la radio par téléphone pour une prochaine fois.
Ou à la radio par téléphone, avec plaisir. Ouais.
J'ai peur qu'il y en ait d'autres malheureusement.
Et puis merci encore pour votre article pour le Courrier Suisse.
Oui, mais.
C'est très très bien.
Ok, merci. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Pour la constitution d'un mouvement contre la guerre, la France est un des premiers États guerriers au monde. Elle est présente militairement dans plus d'une vingtaine de pays et se trouve depuis 2015 parmi les trois premiers exportateurs d'armement avec les États-Unis et la Russie. Airbus et les avions Rafale sont des spécialités françaises aussi fameuses que le Bordeaux ou le Champagne. On se les arrache chez les semeurs de mort. D'ailleurs, la guerre est la meilleure publicité pour les vendeurs d'armes. Le Rafale se vend depuis le début des bombardements en Syrie, alors qu'il restait dans les cartons depuis son lancement en 2000. Désormais, nos dirigeants se vantent de ce bellicisme forcené, présenté comme le seul rempart possible à la barbarie de Daesh. Les attentats survenus sur le sol français sont le prétexte indiscutable à l'intervention militaire en Syrie. Mais on oublie trop souvent que la France est entrée en guerre contre l'État islamique le 19 septembre 2014. Soit près de 6 mois avant ses premiers attentats sur le sol français. La répétition des attentats n'a pas entamé d'une once la rhétorique étatique selon laquelle les interventions militaires françaises à l'extérieur contribueraient à protéger les Français et Françaises sur leur sol. La guerre ne provoque pas la paix, mais la destruction, la misère et le désir de vengeance, c'est-à-dire les conditions de sa perpétuation. Aujourd'hui, la guerre en Syrie et en Irak est un théâtre d'opérations pour une vingtaine de pays, dont les plus grandes puissances mondiales, États-Unis, Russie, France, Turquie, Iran, etc. Les motivations économiques et politiques de ces pays sont complexes, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons affaire à une guerre mondiale que l'on nous présente comme la seule voie possible. Cette évidence nous paraît dangereuse. Il nous semble au contraire urgent de comprendre dans quoi la France est engagée en notre nom et de s'y opposer. Parce qu'il est de moins en moins possible d'être contre la guerre, il est de plus en plus nécessaire d'être contre la guerre. L'état de guerre entraîne un renforcement prodigieux du sentiment patriotique et du nationalisme. On ne se bat, soi-disant, même plus pour abattre un ennemi, mais pour défendre des valeurs. Or, la guerre au terrorisme est un combat sans fin et sans merci. Elle est presque devenue, avec le pinard et les mini-jupes, une partie de notre identité occidentale, dans laquelle nous devrions toutes et tous nous reconnaître. Les exhortations à l'union sacrée ne fonctionnent que face à un ennemi commun, la figure de l'islamiste. L'État français mène depuis le début des années 80 une politique islamophobe qui a pris la forme d'une ségrégation avec la loi contre le voile à l'école en 2004 et la loi anti-burqa en 2009. Ce dispositif législatif s'appuie sur l'instrumentalisation du féminisme à des fins racistes. On oppose des personnes issues de l'immigration qui seraient par nature sexistes pour les hommes et soumises pour les femmes à des personnes françaises supposément non sexistes et libérées depuis toujours. À présent, la population musulmane subit également un amalgame entre musulmans et terroristes qu'on voudrait dissimuler par un discours anti-amalgame. Sous prétexte de protéger la population, la France est en voie de militarisation croissante depuis janvier 2015. Avec l'état d'urgence et l'opération Sentinelle, il n'y a pas eu un si grand nombre de militaires sur le sol français depuis la guerre d'Algérie. Les séries de mesures répressives prises après chaque nouvel attentat, accompagnées de discours racistes, chaque fois plus décomplexé, crée les conditions idéales de la perpétuation de l'idéologie de Daesh en France. De la même manière, la surenchère guerrière mise en œuvre après chaque nouvel attentat contribue elle aussi à alimenter les conditions d'existence de l'État islamique. N'oublions pas que Daesh est né sur les ruines de la société irakienne, détruite par les interventions, embargos et occupations occidentales depuis les années 90. Les guerres que mène la France sont des guerres impérialistes, c'est-à-dire qu'elles visent à s'approprier des matières premières, à contrôler des marchés et à exploiter des populations. Elles peuvent aussi contraindre à la docilité un État qui chercherait à se libérer de la tutelle occidentale. En outre, la guerre et l'industrie de la guerre constituent à elles seules des occasions de rentabilité. L'État, en achetant des armes toujours plus sophistiquées, crée une demande et stimule l'industrie de l'armement. Les profits générés peuvent atteindre des proportions fabuleuses dans une économie comme en Allemagne dans les années 30 ou aux États-Unis depuis les années 80. Par ailleurs, la guerre détruit des villes et des régions entières, faisant place nette pour de nouvelles possibilités d'investissement. Pour se faire une idée du formidable potentiel de profit que la guerre génère, il suffit de voir le féroce combat mené en Irak pour l'obtention des marchés de reconstruction. Les périodes suivant les grandes guerres sont toujours des périodes de croissance capitaliste très rapide, l'exemple classique étant la période nommée « les Trente Glorieuses ». Les guerres entraînent des déplacements de populations considérables, comme la guerre en Syrie, qui a quasiment vidé le pays de ses habitants. Dans leur fuite pour la survie, si elles ne trouvent pas la mort sur la route de l'Europe, ces personnes sont l'objet d'une exploitation intense dont elles ne peuvent négocier les conditions. Cette main-d'œuvre en exil est mise en concurrence avec les autres prolétaires à travers le monde, opposition renforcée par le racisme du discours guerrier. Les guerres impérialistes ne peuvent être que des guerres menées par les capitalistes pour leur profit et contre les prolétaires qui en font tous les frais, en mourant sous les bombes ou par l'accentuation de leur exploitation. L'histoire montre qu'il est difficile de lutter contre les vagues de nationalisme et de chauvinisme va-t-en-guerre. Cependant, des mouvements de masse ont permis de terminer des guerres, d'en empêcher, de transformer des guerres en révolutions. Nous y reviendrons au fil des numéros. Rappelons seulement que la fin de la guerre du Vietnam a été, au moins en partie, obtenue par la combativité d'un immense mouvement populaire aux États-Unis, de même que par les révoltes, mutineries et désertions des GIs. C'est aussi grâce à la pression d'une large opposition que l'État français a été contraint de mettre fin à la guerre d'Algérie. Nous nous rattachons à un antimilitarisme qui considère la guerre et l'armée comme des piliers de l'État capitaliste moderne. Il s'oppose au pacifisme non-violent qui concourt au maintien de l'ordre établi, des rapports d'exploitation et d'oppression. C'est faire fi de l'existence d'une violence structurelle, des hiérarchies sociales au sein des nations comme entre elles. Il y a plusieurs manières d'être contre la guerre. Nous ne sommes pas contre la guerre, nous sommes contre toutes les guerres impérialistes. Il paraîtra dérisoire ou désespéré de croire en un mouvement de masse contre la guerre dans une période d'unanimisme guerrier, de racisme et d'unité nationale. Pourtant, nous refusons d'assister sans rien faire ni dire à la militarisation totale de nos vies et à la destruction du Moyen-Orient et d'une grande partie de l'Afrique par les armées des pays capitalistes dits avancés. Canon rompu se veut un outil pour la constitution d'un tel mouvement. Nous y publierons aussi bien des articles de contre-information sur les guerres en cours que des textes d'analyse critique du discours dominant. Nous y évoquerons les luttes antimilitaristes du passé comme celles d'autres régions du monde. Et comme il n'y a pas d'état de guerre sans les conditions politiques qui la permettent, nous parlerons de la situation en France. Le minuscule groupe de personnes à l'origine de ce numéro en appelle à vos contributions pour la suite. Articles, critiques, discussions, participation à la rédaction, aide à la diffusion, etc. Ce journal n'est qu'une proposition. N'hésitez pas à vous le réapproprier. Vous pouvez nous écrire à l'adresse acanonrompu@riseup.net.
Casualties seldom counted are the ones the guns invade. The ones who work the land, the ones who love the land, the ones who work the land, the ones who love the land, the ones who work the land, the ones who love the land, where dreams of peace are made. Thank you.
and send in the Marines again. I think we better watch out. Watch out.